Interview. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et je reçois Alice Verstraten, la réalisatrice du film Victor. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alice, vous êtes venue dans le studio de RDWA pour nous parler de la projection de votre film documentaire qui aura lieu au Labo le vendredi 27 novembre à 20h. Ce film raconte l'histoire des disparus pendant la dernière dictature argentine. Est-ce que vous pouvez nous pitcher ça?
Alors oui, Victor, c'est le portrait d'un homme surtout, d'un survivant d'un camp de la disparition en Argentine. Donc c'est son histoire à lui et à travers lui l'histoire du pays, bien sûr. Puisque la dictature militaire argentine luttait contre les subversifs apatrides et judéo-communistes. Dans ce cadre-là, elle a essentiellement enlevé en fait des ouvriers syndicalisés, dont Victor, qui a été enlevé avec sa femme et son bébé de 2 mois et 10 jours. La disparition forcée, c'est quand des forces étatiques font enlever des citoyens de façon illégale, les font détenir dans des camps clandestins qui sont vraiment pas répertoriés administrativement, les font torturer, assassiner et font disparaître leur corps. Et donc Victor, lui, il est une exception parmi les 30 000 disparus de la dictature argentine parce que lui, il a pu survivre. Et en plus d'avoir pu survivre, il a pu ramener des photos de l'intérieur du camp. Et ça, c'est des preuves majeures. C'est les seules preuves visuelles qui existent que la disparition forcée a bien eu lieu. Et donc, ça a permis des procès et la condamnation de plusieurs génocidaires.
Pourquoi Victor est-il arrêté? Enfin, en tout cas, pourquoi on met en place sa disparition à l'époque?
Alors, la dictature argentine, elle était vraiment... placé dans un flot de dictatures latino-américaines à cette époque-là, puisque en 1954, il y a un coup d'État au Paraguay, en 1964 au Brésil, en 1971 en Bolivie, en 1973 au Chili et en Uruguay, en 1976 en Argentine. Et donc c'est tout un flot de dictatures qui globalement sont anticommunistes, qui sont soutenues par les États-Unis, et les militaires sont souvent formés à l'École des Amériques, donc en Caroline du Nord, à la lutte anti-subversive. Le coup d'État a lieu le 24 mars 1976 et dans un premier temps il s'agit de lutter officiellement contre le terrorisme des communistes, donc contre les guérillas. Rien qu'en 1976 on estime qu'il y a 80% de la hiérarchie de la principale guérilla de gauche, l'ERP, l'Ejército Revolucionario del Pueblo, donc l'armée révolutionnaire du peuple, 80% qui détruit dès la première année de la dictature. Mais la disparition continue et en fait c'est un faisceau très large de gens qui sont pris dans la disparition forcée. C'est pas seulement des guerrieros, c'est des enseignants, des travailleurs humanitaires, des théologiens de la libération, des artistes, des intellectuels, et dans l'immense majorité c'est des ouvriers syndicalisés. Donc en fait c'est une manière de mettre au pas l'ensemble de la société dans la terreur.
Victor, il est enfermé et il lui arrive, c'est un hasard, mais il est pas parmi les gens qui sont tués après avoir été torturés. Comment ça arrive?
C'est quelque chose que les survivants s'expliquent très peu. Donc Victor, il est emmené à l'ESMA. L'ESMA, c'est l'école de mécanique de la marine au centre de Buenos Aires. Donc c'est un immense camp, plein de verdure comme ça, où viennent s'entraîner les marins, où les enfants des marins viennent faire du sport le mercredi, etc. etc. Et donc dedans, il y a un camp clandestin de disparition qui se met en place. La plupart des disparus sont exécutés très très rapidement quand on estime que leurs informations sont périmées. Et donc soit ils sont exécutés par balles dans beaucoup de camps, soit à l'ESMA ils sont endormis par une piqûre de pain totale et jetés vivants à la mer depuis des avions. Et Victor, il voit passer plusieurs vols comme ça et lui il n'est pas pris quoi. Ça dépend aussi si le camp est très plein ou pas. S'il y a trop de gens, il faut faire de la place. S'il y a beaucoup d'arrivées de gens qui ont été enlevés dans la nuit, on en supprime le matin. C'est aussi mécanique que ça. Et en fait, Victor était ouvrier typographe. Et donc, il a intéressé les bourreaux dans la mesure où il pouvait leur fabriquer de faux documents d'identité. Parce que les bourreaux, en plus de leur activité de répression, ils avaient des activités mafieuses. La marine a comploté pendant toute la dictature en fait, pour prendre le pouvoir sur les autres. pouvoir militaire sur l'armée de terre et l'aviation. Et du coup, ils avaient un tas d'activités mafieuses. Ils s'appropriaient aussi les maisons des disparus, les entreprises des disparus, etc. Donc, il fallait plein de faux documents. Et ils ont utilisé Victor pour ça. Il était faussaire des tortionnaires. Et pour leur faire de faux documents d'identité, ils devaient prendre des photos d'identité de chaque homme. Et quand il prenait ses photos d'identité, en fait, il s'est vite dit que là, il y avait quelque chose à faire pour résister. Et donc, il faisait semblant de tester le flash des appareils. Et en fait, il prenait un cliché de plus. Donc, il a caché le négatif pendant toute la période où il a été séquestré, qui a duré plus de 3 ans. Et le hasard a fait qu'à la fin de la dictature, il a pu sortir ses négatifs du camp. Et donc... Voilà, ils ont pu arriver dans la société civile, ils ont pu arriver dans la démocratie. Et aujourd'hui, c'est des preuves majeures dans les procès. Parce qu'évidemment, quand il y a des portraits des victimes et des portraits des bourreaux, mais quand un bourreau a été pris en photo dans ce lieu-là, il ne peut plus dire qu'il n'y était pas. Donc rien que ça, déjà, ça démonte toute leur rhétorique de négation.
C'est une des seules traces, les seules preuves qu'il y a de tangible, en tout cas de physique.
C'est la seule preuve visuelle que la disparition forcée a eu lieu. Après, il y a des preuves qui sont retrouvées rétroactivement, c'est-à-dire que l'Argentine a mis en place des méthodes assez nouvelles. Il y a une équipe argentine d'anthropologie légiste qui s'est fondée en 1983 et qui mêle les méthodes de l'archéologie, de l'anthropologie et de la police scientifique pour chercher des traces des disparus, pour localiser des fosses communes, pour exhumer les corps, pour les identifier. Quand la dictature est tombée, évidemment, les bourreaux ont aussi effacé toutes les traces, donc ils ont brûlé les archives, ils ont fait détruire certains camps. Il y a le camp notamment qui s'appelle El Atlético, donc le club de sport en fait, c'était son surnom, que les bourreaux ont fait exploser. Ils ont rempli le sous-sol des débris du bâtiment et ils ont construit une autoroute par-dessus. Même comme ça, l'équipe argentine d'anthropologie légiste, a pu... localiser le camp, faire des fouilles archéologiques. Et là, on a retrouvé plein de preuves à l'intérieur. Parce qu'ils ont enterré les preuves avec. Du coup, elles sont là. Donc, voilà. Mais Victor ramène vraiment les seules preuves au présent, on va dire, de la disparition.
Les pouvoirs, le pouvoir en place après la fin de la dictature s'est intéressé rapidement à ce problème-là, ou est-ce qu'il a fallu que des gens... se mobilise ? Est-ce que la communauté internationale s'est mobilisée ? Est-ce que ça a été facile de faire ressurgir ça ? Ou est-ce que c'est compliqué ?
D'abord, pendant la dictature, ça a évidemment été hyper difficile de le faire surgir parce que c'était une dictature, donc interdiction de manifester, etc. Malgré tout, il y a des femmes qui ont décidé de braver l'interdit de manifester. Donc ce sont les mères de la place de Mai, des mères de tous ces disparus, les mères des gens comme Victor, qui se sont rassemblées devant le siège du gouvernement, devant la Casa Rosada, et qui, tous les jeudis, se sont mises à tourner en rond pour demander des nouvelles de leurs enfants, deux par deux. Le fait de tourner en rond, c'est parce que simplement un soldat leur a demandé de circuler. C'est là que l'idée leur est venue de tourner en rond. C'est pas une manifestation, mais voilà. Et elles ont commencé à témoigner dans les médias, à voyager à l'étranger, auprès d'Amnesty International, auprès de toutes les ambassades qui voulaient bien les recevoir, du Vatican, etc. Et donc elles sont pour une grande part dans la chute de la dictature, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment mis la pression sur le gouvernement, elles et d'autres organismes de droits de l'homme qui ont suivi. Maintenant, la dictature, elle s'est écroulée d'elle-même parce que cette répression était démentielle et que les gens, au bout d'un moment, n'ont pas plus supporté ça. Et parce qu'elle a déclenché la guerre des Malouines, qu'elle a perdue très rapidement contre l'Angleterre. Et du coup, il y a en plus une énorme crise économique due à la politique économique de la dictature, une guerre ratée, des opposants qui commençaient à être trop visibles, donc la dictature était face au mur. Et donc elle a négocié le retour à la démocratie, elle a négocié des élections en échange de lois d'impunité. Donc normalement, il ne devait pas y avoir du tout de procès à l'issue de la dictature. Il y en a quand même eu en 86. Raoul Alfonsín a permis qu'il y ait le gros procès des juntes, qui a été un peu comparé à tort et à travers au procès de Nuremberg. Donc il y a eu plusieurs condamnations, mais qui ont été suivies très rapidement en fait de lois qui réduisaient la responsabilité des génocidaires. Donc les lois dites du point final et de l'obéissance due. Donc point final à ce qui s'est passé, et obéissance due, c'était pour dire que seuls les décideurs pouvaient être condamnés, que toutes les petites mains de la répression n'étaient pas responsables de leurs actes. Et puis, quelques années plus tard, en 1989-90, Menem a fait des décrets d'amnistie. et donc a amnistié tous ceux qui ont été condamnés et se sont retrouvés libres, y compris les principaux dictateurs étaient libres dans la rue comme tout le monde. Voilà. Avec des lois d'impunité qui ont couru jusqu'en 2006. Et c'est en 2006 que les lois ont été déclarées anticonstitutionnelles, ont été annulées et que là vraiment se sont ouverts des procès, donc après quand même plus de 30 ans de lutte des organismes de défense des droits de l'homme. Et donc depuis 2006, il y a toute une série de procès où les gens ont été condamnés pour génocide et pour crimes contre l'humanité.
Le contexte du coup est parfait pour cette interview. Hier ont eu lieu des élections en Argentine. On me disait hors antenne que c'était donc la droite plutôt révisionniste qui a été mise au pouvoir. Comment ça va se passer pour la suite de tout ça ?
Là, on ne sait pas du tout, il y a un gros flottement. En fait, Mauricio Macri, qui a été élu hier, donc dimanche 22, est un loup néolibéral déjà. C'est un milliardaire. Sa famille était déjà propriétaire de plusieurs dizaines d'entreprises avant la dictature et plusieurs centaines après la dictature. C'est-à-dire que sa famille a vraiment fait fortune sur les entreprises des disparus, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est impliqué depuis toujours dans la dictature. Sa candidature a été soutenue par les familles des génocidaires. Et il y en a beaucoup qui espèrent qu'il va arrêter les procès. Parce que le pouvoir judiciaire argentin n'est pas ultra séparé du pouvoir politique. Et donc le président a effectivement le pouvoir de mettre un frein au procès. Par ailleurs, il y a eu plusieurs petites déclarations au fil de la campagne, comme quoi vraiment les défenseurs des droits de l'homme en faisaient trop, que c'était de la politique spectacle, que c'était jouer sur les émotions des gens, qu'il fallait en finir avec le passé, etc. etc., etc. Donc on ne sait pas trop, mais c'est vrai que les tensions remontent depuis quelques mois en Argentine. Victor a survécu à un attentat au mois de mai dernier. Et un attentat qui est clairement fait avec la complicité de la police locale. Or, Mauricio Macri, qui aujourd'hui va être président argentin, était maire de Buenos Aires, jusqu'à maintenant. Donc, cette police locale était liée à Mauricio Macri. Et donc, Victor, au mois de mai, revenait d'une exposition où il montre justement les photos qu'il a prises dans le camp. Il était dans la voiture avec le fils d'un homme qui a disparu à l'ESMA. Et ils étaient sur l'autoroute et un camion leur a foncé dessus, tout feu éteint, donc il faisait nuit. Ils ont réussi à esquiver le camion et à ce moment-là, le chauffeur a sorti une arme de guerre et leur a tiré dessus. Il a pu être arrêté, mais il a été libéré par la police. Voilà. Sans aucune autre forme de trace, quoi. On n'a même pas pris son nom. Et voilà. Donc oui, il y a quand même toujours un risque que le révisionnisme l'emporte. Et je pense que ce risque, il va se poursuivre pendant des années et des années.
Vous co-réalisez ce film avec votre sœur. Mmh. Et c'est dans le cadre de votre doctorat en anthropologie. Vous vous rendez régulièrement en Argentine au moment de la réalisation de ce film. Comment est-ce que vous rencontrez Victor ?
Alors, oui, donc moi j'avais commencé en 2003-2004 à travailler sur les disparitions forcées en Argentine. Et j'avais rencontré beaucoup de témoins, j'en ai rencontré là, je ne sais même plus combien, mais au final j'ai plus de 25 témoignages longs vraiment sur lesquels j'ai travaillé. Voilà. Et donc on avait commencé à écrire un projet de film où il y avait trois générations, une mère de disparue, une fille de disparue et une survivante des camps. Et c'était compliqué à mettre en place parce que ça faisait beaucoup de pistes pour les spectateurs européens qui ne connaissent pas cette réalité-là. Ça faisait trois histoires de vie différentes. C'était difficile de prendre le temps de respecter l'histoire de vie de chacun dans le temps d'un film. Et donc on était vraiment dans le questionnement. Cécile est venue avec moi en Argentine. Et là, on a refait vraiment des repérages ensemble et on a rencontré ensemble Victor. Par le biais d'amis qui sont enfants de disparus, un autre ami qui est photographe aussi, et une survivante des camps, enfin, qui nous ont amenés à lui. Du coup, il nous a ouvert sa porte tout de suite parce qu'on venait par des amis, alors qu'il est quand même relativement méfiant et on comprend qu'il le soit. Et dès qu'on l'a rencontré, pour nous, ça a été vraiment, vraiment évident que c'était d'abord quelqu'un avec qui nous, on accrochait personnellement, et ça, c'est très, très important pour pouvoir faire de l'anthropologie ou pour pouvoir faire un film, quoi, que ce soit vraiment quelqu'un avec qui les choses passent, avec qui on se comprenne, avec qui les mots aient à peu près le même sens. Et puis, il a deux filles de notre génération, donc il y a quelque chose qui s'est joué aussi tout de suite en miroir. Il a eu confiance en nous, on lui a fait penser à ses filles, il avait envie de transmettre à des jeunes de notre génération, voilà. Et puis, il a une histoire qui est à la fois extrêmement exceptionnelle et qui, en même temps, permet de révéler bien l'histoire collective, quoi. Donc, et il a un gros avantage, je crois, sur beaucoup d'autres témoins, c'est qu'il arrive à raconter les choses sans horrifier les spectateurs. C'est-à-dire que Haïdé, qui est une mère de disparus que j'aime énormément et que j'aurais beaucoup aimé filmer, a par exemple plus de mal. Par moment, l'angoisse prend le dessus, elle peut se mettre à pleurer, elle peut avoir la voix qui part dans les aigus, et c'est tout à fait normal. Mais pour le spectateur, c'est dur à recevoir. Tandis que Victor, il a un petit peu une voix de conteur, il arrive à maîtriser ses émotions et du coup à nous transmettre l'horreur sans nous horrifier trop, quoi.
Il y a de la retenue, mais il y a quand même une grosse émotion qui passe. Dans le récit de Victor, il arrive à faire passer les faits, mais pas seulement.
Oui, tout à fait. Pour moi, il fait passer les émotions, mais en respectant les nôtres, quelque chose comme ça, qui fait qu'on arrive à l'écouter. Parce que c'est important, si on est trop horrifié, on n'écoute pas jusqu'au bout. Et donc ça a été une de nos grosses questions pendant le tournage et pendant le montage, de savoir ce qu'on met pas dans un film. Par exemple, dans un récit de la torture, on est obligé d'en mettre un petit peu quelque chose pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Parce que les mots en l'air comme ça, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et en même temps, pas en mettre trop non plus, parce qu'à un moment donné, c'est insoutenable. Donc, ça, c'est... Et les témoins sont tout le temps en train de mesurer ça d'ailleurs aussi, de s'auto-censurer, de dire ça je le dis, ça je le dis pas, de regarder dans nos yeux si ça va, si on supporte, s'ils peuvent continuer. Enfin, il y a cette précaution permanente à prendre quand on parle de sujets pareils. Ouais.
Ça me fait rebondir sur une question pratique pour la projection qui aura lieu vendredi. C'est un support qui peut être pédagogique, ce documentaire, je suppose. Mmh. À partir de quel âge on peut... s'y intéresser et comprendre et ne pas être trop choqué.
Moi, je dirais à partir de l'adolescence, même si on est très choqué. Enfin, moi, personnellement, j'ai découvert la Shoah à 13 ans, par exemple. Je pense qu'avant, c'est jeune. Mais ça dépend beaucoup de la maturité des adolescents. C'est vrai que, au programme en troisième, notamment, il y a la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration. Donc là, ces choses-là commencent à arriver sérieusement dans l'imaginaire. C'est vrai qu'avant, ça dépend aussi du vécu familial. Les enfants, les petits-enfants de disparus en Argentine connaissent cette histoire depuis leur naissance. Évidemment, ils baignent dedans. Et il peut y avoir aussi en France des gens comme ça qui baignent familialement dans des histoires assez proches. Mais sinon, je dirais l'adolescence. D'autant plus que c'est un film en espagnol qui est sous-titré français. Donc il faut quand même bien maîtriser la lecture aussi pour pouvoir suivre. Après, même pour les adultes, il faut s'armer un petit peu quand même. Il faut se dire que voilà, on vient pas forcément pour se distraire, mais on vient pour s'instruire et pour réfléchir. Et c'est vraiment un sujet d'actualité. C'est très important pour nous de le rediffuser maintenant, alors qu'il a été terminé en 2009, ce film. D'abord pour soutenir Victor, donc, qui subit des menaces en Argentine, parce qu'il y a ce moment en Argentine où on ne sait pas ce que va devenir le travail de mémoire. Et puis parce que c'est un film qui parle aussi beaucoup du terrorisme, en fait. Les disparus étaient accusés de terrorisme et accusent le pouvoir d'avoir pratiqué du terrorisme d'État. Mais dans tous les cas, le maniement de la peur du terrorisme, comme ça, de la violence, a généré un espèce d'état général de terreur où la justice était mise entre parenthèses et où c'est les méthodes des services secrets qui l'ont emporté sur... les méthodes normales de la police et sur l'état de droit. Et que donc, c'est vraiment des sujets qu'il faut avoir bien en tête en ce moment, je trouve.
Vous serez présente avec votre sœur à cette projection. Mm-hmm. Ce sera l'occasion pour le public de discuter avec vous.
Oui, bien sûr, on est là pour ça. En général, il y a des longs débats après Victor. Le film ne fait que 48 minutes, mais les débats durent en général.
C'est une association du coin qui organise cette projection. Est-ce que vous pouvez m'en parler ?
Oui, alors c'est l'association Acromat qui porte le projet Les Sentiers du Doc et donc qui est dans le Diwa depuis un an. Donc leur idée, c'est de faire une fois par mois une projection dans un village du Diwa, une projection de documentaire. Donc il y en a eu à Boulk, à Miscon, à Luc. Là, c'est la première fois qu'ils vont en faire une à Châtillon et donc on trouvait ça intéressant de programmer Victor puisque je vis à Châtillon et que du coup c'était l'occasion de à la fois se faire se connaître les Châtillonnais et d'amener du documentaire dans le village. Voilà. Donc, au mois de décembre, ce sera le jour le plus court, donc avec des séries de courts-métrages. On ne sait pas encore dans quel village ça aura lieu, mais voilà, l'association a pris contact, je crois, avec toutes les mairies du coin aussi, pour que celles qui sont intéressées le fassent savoir.
Alors, est-ce qu'il faut réserver sa place pour vendredi ? Comment ça se passe ?
A priori, non. Après, le labo, c'est pas un lieu immense. Donc il vaut mieux venir un petit peu en avance, pas à 20h, si on veut être sûr d'être bien installé. Il y a des petits gradins. Il y a de plus en plus de monde qui viennent aux projections là, des sentiers du Doc. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Au début, il y avait 10 personnes. La dernière fois, à Miscon, ils étaient 80. Donc on verra bien. Si vraiment il y a trop de monde, je ne sais pas, peut-être qu'on pourra mettre le film deux fois d'affilée. Mais bon. Ou on le refera encore, ce sera l'occasion de le refaire ailleurs dans le Diwa, s'il y a du monde.
Alors je rappelle aux auditeurs que la projection de Victor aura lieu au labo à Châtillon-Diois le vendredi 27 novembre à partir de 20h, que Alice et Cécile Verstraeten seront présentes, ce sont les réalisatrices du film. Merci beaucoup Alice d'être venue dans le studio de RDIWA parler de Victor.
Merci à RDIWA et merci au labo de nous accueillir.
Restez à l'écoute des ondes de RDIWA. Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews sur le site www.rdwa.fr. Bonne fin de journée à tous.
Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.